Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire, un cours d'histoire qu'aujourd'hui nous consacrons à la chute de l'Empire romain. Michel de Gégère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une somme absolument remarquable consacrée à la chute de l'Empire romain. Plus de 10 années d'un très long travail, Les derniers jours, tel est le titre de cet ouvrage, paru dans un premier temps aux belles lettres et qui a été réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Michel de Gégère, dans les débats sur la chute de l'Empire romain, il y a tout simplement deux écoles. Celle qui, dans la lignée de l'historien Henri-Irénée Maroux, ou plus récemment de Peter Brown, estime qu'il existe une antiquité tardive et que la transition vers le monde médiéval occidental se fait sur le temps long. Au contraire, vous estimez, vous, à l'instar d'autres, de Peter Heiser par exemple, ou bien de Brian Ward Perkins, qu'il y a un avant et un après. Michel de Gégère, ma première question sera simple. Peut-on définir les origines de cette chute? On parle par exemple des origines intellectuelles de la Révolution française, ou bien des origines de la guerre de Cent Ans, qui est un événement qui dure très longtemps. Peut-on aussi définir les origines de la chute de l'Empire romain?
Alors je voudrais d'abord faire une petite précision sur votre introduction. Je ne m'inscris pas du tout en faux, par exemple, par rapport aux travaux d'Henri-Irénée Maroux. Henri-Irénée Maroux a été pionnier en effectivement popularisant le terme d'antiquité tardive par la réhabilitation de l'Empire chrétien. C'est-à-dire que, si vous voulez, avant, au 19e siècle, au début du 20e siècle, jusqu'aux années 50, on utilisait le terme de bas-empire pour tout ce qui se passait à partir du 3e siècle.
Qui était péjoratif.
Et on avait, notamment Pigagnol, si vous voulez, grand historien du bas-empire, on avait une vue extrêmement péjorative de l'Empire chrétien. Et Henri-Irénée Maroux a montré que l'Empire du IVe siècle et d'une partie du Ve siècle, mais surtout du IVe siècle, avait au contraire été un foyer de civilisation avec une civilisation brillante. Et ce sont, je dirais, ses continuateurs et ses disciples qui ont dilater à l'extrême cette notion d'antiquité tardive, qui est tout à fait, à mon avis, légitime si on l'applique à l'ancien bas-empire, à l'empire chrétien, on l'a dilaté pour faire perdre toute pertinence d'une part à l'idée d'une rupture consécutive aux invasions barbares et d'autre part l'idée d'une décadence consécutive à la disparition de l'Empire romain d'Occident. Donc ce sont deux choses différentes, si vous voulez. Maroux, dans son livre qui s'appelle Antiquité tardive ou décadence romaine ou antiquité tardive, à aucun moment ne prétend réhabiliter le 6e, 7e, 8e siècle. Il réhabilite le 4e siècle. Et il y a une dilatation de cette notion d'antiquité tardive qui est le fait de ses disciples. Donc c'est vis-à-vis d'eux que je me sens en rupture et non pas du tout vis-à-vis de lui. Mmh. Alors s'agissant des causes, évidemment, la question des causes de la chute de l'Empire romain, c'est un des grands sujets historiques depuis des siècles, depuis Machiavel quasiment. Et je pense que elle est malheureusement vouée à l'échec. La réflexion autour des causes est vouée à l'échec si l'on cherche à identifier une cause unique. Un phénomène de cette ampleur n'a pas de cause unique, mais ce que Paul Veyne a appelé une concaténation de causes multiples. Ce que l'on peut, donc j'ai personnellement, après avoir essayé de me livrer moi-même à la recherche de ces causes, et devant la multiplicité des causes concomitantes, si vous voulez, j'ai renoncé à cette recherche qui me paraît sans issue, au profit d'une tentative, c'est ce que j'ai fait dans mon livre, de reconstitution d'un processus. Il y a un processus qui a mené à la disparition de l'Empire romain d'Occident, et cette disparition s'est elle-même traduite pour l'Occident par une catastrophe historique. Ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre. Mais en revanche, l'idée que l'on puisse identifier la cause ou quelques causes me paraît assez vaine, parce que il y a trop d'enchevêtrement de causes pour que l'on puisse ramener tous ces phénomènes à une cause unique. Mmh.
On accuse souvent les partisans de la rupture, entre guillemets, de ne voir qu'un moment. Or, quand vous parlez de processus, on parle de temps long, on parle de 2 siècles, de 3 siècles.
Je pense que le processus qui a conduit directement, si l'on peut dire, à la disparition de l'Empire romain d'Occident, les faits se déroulent sur un siècle, en gros entre 376 et 476. Les tendances lourdes exigent l'examen de 3 siècles, hein, les 3e, 4e, 5e siècle et peut-être aussi le 6e siècle, car évidemment la romanité ne disparaît pas du jour au lendemain avec la déposition du dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, et donc il faut également aller jusque étudier le 6e siècle pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce phénomène.
Le terme barbare n'apparaît qu'au 3e siècle. Les barbares avant ce 3e siècle représentaient des peuplades inoffensives ?
Non, ils ne sont pas inoffensifs. Les barbares, on les connaît, on connaît les tribus germaniques, hein, depuis Marius qui les a écrasés, notamment près d'Aix-en-Provence, hein, les Teutons et les Cimbres. On en a une certaine crainte depuis Auguste, hein, avec la bataille de Teutobourg où 2 légions ont disparu et où Auguste a éprouvé de grandes inquiétudes sur une invasion générale de l'Empire. Ça, c'est en l'an 9. Et donc, on connaît ces peuplades germaniques, et c'est ce qui a conduit d'ailleurs Auguste à conseiller à Tibère, et Tibère et ses successeurs se sont plus ou moins tenus à cette consigne, et bien à se retirer sur le Rhin et à renoncer à la colonisation de la Germanie et donc à l'extension de l'Empire au-delà du Rhin. Donc ces peuplades sont connues. Mais une fois l'Empire replié le long du Rhin et du Danube, eh bien ce sont des peuplades de petite taille, sans aucune unité politique, qui sont saisis de façon sporadique par une certaine soif de pillage, mais qu'il est facile de contenir. Et donc, elles ne vont pendant quelques siècles, au moins 2 siècles, pas poser à l'Empire romain de problèmes excessifs.
Est-ce qu'il y a un sentiment unitaire chez ces peuples ?
Aucun. Aucun, et jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, d'une part, du 1er au 5e siècle, les empereurs vont toujours jouer ces peuplades les unes contre les autres. Il y a même une phrase de Tacite qui dit « Puisse durer toujours la haine que ces peuples se vouent les uns aux autres, ce qui leur permet de s'exterminer et de préserver par là l'Empire. » Vous voyez, et ça va durer jusqu'au bout, c'est-à-dire que les Romains auront de nombreux officiers d'origine germanique qui combattront très loyalement pour Rome. Ils utiliseront très souvent certains peuples contre d'autres peuples. Il n'y a aucun pan-germanisme.
Alors, l'histoire est faite bien évidemment de dates très précises. 357, bataille de Strasbourg. 376, les Goths traversent le Danube. 406, la traversée du Rhin. Et ainsi de suite, jusque 476. Toutes ces batailles, toutes ces périodes amènent à une certaine porosité, en quelque sorte, de la frontière avec les mondes germains, et le monde germanique s'introduit au fur et à mesure dans le monde romain.
Alors la porosité est plus ancienne, c'est-à-dire que à partir de la fin du 2e siècle, il commence à y avoir les premières incursions germaniques. Ce sont les guerres de Marc Aurèle contre les Marcomans. Et tout le règne de Marc Aurèle, quasiment, va se passer sur la frontière à contenir ces tribus. Et donc ces raids se multiplient au 3e siècle, où il y a des invasions, une première vague d'invasions, mais ce sont des grands raids de pillage, ce ne sont pas des raids de conquête. Jamais les peuplades germaniques n'ont imaginé conquérir, si vous voulez, ou faire chuter l'Empire romain, mais ce sont des raids de pillage où ils vont pour piller, pour tuer, pour prendre du butin et pour rentrer ensuite chez eux. Donc cette porosité des frontières, elle est très ancienne. Maintenant, à partir de la tétrarchie, un petit peu avant même, ce qu'on appelle les empereurs illyriens, les tétrarques ensuite, autour de Dioclétien, et puis ensuite Constantin et ses fils au IVe siècle, puis Julien, vont contenir cette frontière. Même Constantin va même créer, le long du Rhin et du Danube, des royaumes clients, notamment le long du Danube, une espèce de royaume goth qui sera une espèce de vassal de l'Empire romain et qui va jouer le rôle d'état tampon et empêcher les invasions en étant des gardes-frontières des Romains au-delà de la frontière, au-delà du fleuve. Donc, vous voyez, il y a une connaissance ancienne de ces tribus, il y a des contacts entre eux, il y a des contacts commerciaux puisque il y a des commerçants romains qui vont dans ce qu'on appelle le Barbaricum, il y a des esclaves en très grand nombre parce que les raids de pillage des Germains se sont finalement terminés par des victoires romaines au terme desquelles on a fait un très grand nombre de captifs. Donc il y a énormément de captifs goths, de présence germanique, etc. C'est pas du tout deux mondes qui s'ignorent.
Ce sont pas deux mondes qui s'ignorent, donc on passe d'une situation guerrière à une situation où on a des barbares dans l'armée romaine. Entre les deux, que se passe-t-il au fond pour arriver d'une situation à une autre ?
Alors, ce qui se passe, c'est que d'abord, il y a des barbares dans l'armée romaine de façon assez ancienne, qui sont des captifs que l'on a soit enrôlés dans les légions, soit installés comme paysans sur le territoire romain, et qu'ensuite, par le fait du service militaire, de la conscription qui est instaurée sous Dioclétien, eh bien, vont se retrouver dans l'armée romaine. Et donc, l'armée romaine va être, au IVe siècle, une armée germanique, sous commandement romain, avec des officiers romains. Et finalement, bon, ça a des inconvénients. On voit que Yann Le Boeck, qui est un spécialiste de l'armée romaine, dit que c'est la fin de la discipline romaine et que certains insuccès de l'armée romaine témoignent d'un relâchement de la discipline et d'une baisse de qualité de l'armée romaine. Mais enfin, le système fonctionne. Et puis le tournant, ça va être quand en 376, des Goths vont être accueillis en masse comme réfugiés, puis vont se révolter et puis vont vaincre. Ces révoltés vont vaincre une armée romaine et tuer même l'empereur, qui est l'empereur Valence, et son successeur Théodose va privé d'armée, car l'essentiel des forces romaines ont disparu dans la bataille, va recruter à la hâte une nouvelle armée qui ne va pas se révéler très opérationnelle. Et bref, il va finir par négocier une paix au terme de laquelle les Goths vont être accueillis en masse dans l'Empire romain, installés ensemble, en armes, sous leur chef, comme un État dans l'État, si vous voulez. Et ça, c'est le tournant, parce que ce modèle va séduire d'autres peuples qui vont essayer d'obtenir le même statut et qui vont rentrer dans l'Empire romain par la force. Encore une fois, non plus seulement pour y mener un raid de pillage, mais pour s'y installer comme un État dans l'État.
Ces hommes ont un statut juridique ?
Alors c'est très compliqué, si vous voulez, mais ce qui change, c'est que au IIIe, IVe siècle, si vous voulez, le statut le plus classique, en fait, il y a deux statuts. Il y a un statut pour les réfugiés et un statut pour les immigrés, si vous voulez, si on veut utiliser des termes contemporains. C'est-à-dire que les gens qui sont rentrés de toute façon agressive et qui ont été vaincus, hein, qui sont des prisonniers de guerre, ont le statut de déditis, c'est-à-dire qu'ils sont dispersés chez des grands propriétaires, ils restent des hommes libres, mais ils n'ont pas le droit de cité, ils sont répartis souvent loin des frontières et sans plus de solidarité tribale. En revanche, un certain nombre de tribus avec lesquelles on a négocié, parce que les territoires le long de la frontière sont dépeuplés et que ces tribus avaient idée de s'installer, on les a accueillis de façon amiable, et là ils ont pu rester en groupe avec des chefs tribaux qui leur répartissent qui restent un petit peu les patrons patrons de ces nouveaux clients et ils ont pu s'installer en groupe. Ce qui se passe à la fin du IVe siècle avec cette arrivée en masse des Goths, c'est qu'on va traiter des envahisseurs comme s'ils étaient des réfugiés. Et c'est là où tout bascule, c'est-à-dire que le moment où il n'y a plus besoin d'être arrivé pacifiquement pour être traité en allié, mais où l'on peut, en arrivant les armes à la main, en arrivant comme des pillards et des conquérants, obtenir ce statut de réfugié, obtenir d'être installé sur le territoire romain. Et donc ça psychologiquement, ça change tout. Ce sont des peuples qui sont invaincus, qui sont avec leurs chefs tribaux, qui vivent dans leur culture, qui est le culte de la force, et qu'on a installé, faute d'avoir été capable de les raccompagner à la frontière. Et là, eux, eh bien, c'est une histoire très compliquée, dans le détail de laquelle je ne peux pas rentrer, mais on va leur concéder des terres et contre des services militaires que l'on leur demande, et ils vont se comporter petit à petit comme des royaumes indépendants à l'intérieur du territoire romain, et l'Empire romain va se disloquer de l'intérieur du fait de la présence de ces troupes armées qui se constituent des royaumes barbares à l'intérieur de ses frontières.
Mmh. Et pourtant, donc vous parlez de la fin du IVe siècle, pourtant on date la chute de l'Empire romain de 476.
Dans cette installation, si vous voulez, à la fin du IVe siècle, il y a une première installation de ces Goths, et ce phénomène va se multiplier au Ve siècle.
Et pourquoi retient-on la date de 476 ? Au fond, c'est une date symbole ?
C'est une date symbolique parce que c'est le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, qui d'ailleurs est un usurpateur. Donc si l'on veut, il y a un empereur légitime qui est en exil à Salone, c'est-à-dire dans l'actuelle Croatie, qui s'appelle Julius Nepos, qui ne mourra que 4 ans plus tard. Donc la vraie fin de l'Empire romain d'Occident, si l'on veut, ça serait 480. Mais il se trouve que c'est le dernier empereur qui a été déposé sans avoir été remplacé. Jusque-là, il y a une très très grande instabilité à la fin du Ve siècle avec des empereurs fantoches qui durent peu, mais on leur trouve un remplaçant, mais l'empereur d'Orient essaye de nommer un nouvel empereur qui l'assiste de ses armes pour lui permettre de reprendre le contrôle de la situation. Là, non, il ne se passe plus rien. Et en fait, les chefs barbares qui dominent, qui ont le monopole de la force et qui donc dominent les différents royaumes qui se sont constitués à l'intérieur de l'Empire romain, prétendent reconnaître comme seul empereur l'empereur d'Orient, parce que cet empereur est loin et qu'il est inoffensif, il ne peut rien contre eux, et donc ils prétendent que l'unité de l'Empire romain entre Occident et Orient a été reconstituée et que l'Empire ne s'est pas du tout effondré, mais que tout le monde reconnaît, il y a des correspondances diplomatiques avec l'empereur d'Orient, le reconnaissant comme le seul empereur. Ce qui permet aux historiens continuistes de dire, voyez, rien n'a changé, l'Empire romain continue. Mais l'Empire romain continue, c'est une pure fiction juridique.
Est-ce qu'on peut comparer, Michel de Gégère, les invasions musulmanes du 7e siècle et le développement de l'islam avec le développement de ces invasions barbares ?
Alors, ça a été fait de façon, à mon avis, extrêmement féconde et intéressante par l'historien britannique Brian Ward Perkins, qui, dans un article, à mon avis, fondateur du Figaro Histoire, s'est livré à cette comparaison de façon tout à fait éclairante. C'est-à-dire que il montre que les invasions, la conquête arabe, s'est faite très rapidement, en quelques batailles décisives. L'Empire perse, d'une part, la partie africaine ou moyen-orientale de l'Empire d'Orient, d'autre part, se sont effondrés très rapidement, avec très peu de batailles, et donc très peu de destruction. Et la conséquence a été que la conquête arabe a maintenu la civilisation matérielle, et que donc l'Orient, sous domination musulmane, va connaître une prospérité assez spectaculaire dans la mesure où il n'y a pas eu de destruction. Au contraire, les invasions germaniques en Occident se sont étalées, comme nous l'avons dit, sur plusieurs siècles avec beaucoup de destruction, et il y a eu surtout dans la partie la plus septentrionale de l'Occident, parce que au sud c'est un petit peu moins vrai, mais enfin surtout dans cette partie, il y a eu énormément, mais enfin même en Espagne, même en Italie, il y a eu énormément de destruction de la civilisation matérielle. En revanche, parce que ça a été long, parce que ça a été dans, parce qu'en fait l'Occident a beaucoup mieux résisté que l'Orient. Et que cette résistance a provoqué beaucoup de destruction, puis la tentative de reconquête justinienne, etc. Bien. En revanche, du point de vue de la civilisation immatérielle, c'est le contraire. C'est-à-dire que les tribus germaniques arrivent sans vraie culture élaborée. C'est quelques épopées guerrières, des langues assez frustes, et ils sont fascinés par la civilisation romaine. Eux, ce qu'ils veulent, ils veulent être les patrons, mais ils ne veulent pas renverser la civilisation romaine, ils veulent l'adopter. Et donc, ils vont adopter... ils sont en très petit nombre. Il faut savoir que les invasions germaniques, c'est pas du tout la submersion de l'Europe par des foules innombrables. Ce sont des peuples qui font 30 000, 50 000, 100 000 personnes dans un empire d'Occident qui doit avoir à peu près 20. Si vous voulez, on pense que l'ensemble de l'immigration, le terme n'est pas bon, mais l'ensemble des invasions barbares au 5e siècle a mis en œuvre à peu près 1 million de germaniques dans un empire de 25 millions d'habitants. Donc, des peuples très peu nombreux, sans grande culture propre, et qui adoptent la culture des peuples vaincus, qui adoptent rapidement le christianisme, dans le cas des Francs, même le christianisme nicéen, et qui s'appuient sur les évêques pour maintenir la langue latine. Alors, c'est une langue un petit peu abâtardie, etc., ça va donner les langues romanes, mais tout de même, et donc, la renaissance médiévale, la renaissance qui apparaît dès les Carolingiens, etc., est inscrit dans ce fait qu'il n'y a pas substitution d'une culture à une autre culture. Le peuple autochtone, les peuples autochtones qui sont largement majoritaires, gardent leur culture, gardent leur religion, et c'est le ferment des renaissances futures. Dans le cas de la conquête arabe, c'est le contraire, puisque... le peuple conquérant arrive avec une culture conquérante, c'est Allah qui lui promet la victoire. Allah fait connaître ses commandements dans la langue arabe, dans le Coran, qui est une parole incréée, qui est incréée en arabe, et donc il est hors de question d'abandonner l'arabe, qui est la langue de Dieu. Bien. Donc les Arabes arrivent avec leur langue, avec leur religion, avec leur culture, et ils vont récupérer la civilisation matérielle des Byzantins pour la mettre au service de leur propre culture. Donc vous voyez, c'est vraiment Howard Perkins qui a trouvé ça, je trouve l'intuition prodigieuse. On a deux phénomènes absolument symétriques. Dans un cas, une destruction de la civilisation matérielle avec un retour à des conditions de vie matérielle qui sont quelquefois, dans certaines régions, la vie de la préhistoire, mais maintien de la culture spirituelle qui est le ferment de la Renaissance, et d'un autre côté, maintien de la civilisation matérielle qui fait que, si vous voulez... Lorsque l'on construit à Jérusalem ce qu'on appelle le Dôme du Rocher, c'est un monument qui a exactement l'architecture d'un baptistère byzantin, et on est incapable au 8e siècle, au 9e siècle, en Occident, de construire des bâtiments de cet ordre. Les palais de Charlemagne sont en bois. Si vous voulez, il y a une civilisation, une beauté de la civilisation matérielle dans les pays sous domination musulmane qui est... simplement le maintien de la civilisation byzantine récupéré par les conquérants arabes et mis au service de leur civilisation immatérielle. En Occident, c'est le contraire. Il y a disparition de la civilisation matérielle et maintien de la civilisation spirituelle. Et ça éclaire extraordinairement tous les débats entre ce qu'on appelle les continuistes et les partisans de la rupture, car souvent les continuistes, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'il ne s'est rien passé, mettent, comme Peter Brown par exemple, mettent en avant ce maintien de la civilisation spirituelle en disant « voyez, il ne s'est rien passé ». Mais sauf que on est dans des huttes en bois, sur de la terre battue, là où autrefois on était dans des maisons en dur avec des toits de tuiles. C'est un tout petit peu différent.
On en revient aussi au fond à la thèse de Pirenne, d'Henri Pirenne, l'historien belge, donc Mahomet et Charlemagne, qui montre précisément qu'il y a une rupture dans la Méditerranée, que la vraie rupture pour lui était la rupture méditerranéenne de la progression de l'islam.
Alors, Pirenne situe la rupture au moment de l'éruption de l'islam en disant que c'est l'éruption de l'islam qui a empêché les communications entre l'Orient et l'Occident et que l'Occident a périclité du fait de la fin de ces communications. Mais en fait, Pirenne avait fondé son étude sur les échanges de quelques produits. Je pense qu'il y avait là, dans son étude, des intuitions qui étaient certainement très fécondes, mais une vue un petit peu spécialisée des choses, parce que par l'étude, si vous voulez, la réponse de Ward Perkins à Pirenne, hein, qui est le livre de Ward Perkins, très bon livre, qui s'appelle, je crois, La chute de l'Empire romain, tout simplement, eh bien, par l'archéologie, il montre que tout de même faire succéder des cahutes en bois au toit de chaume à des ferments durs au toit de tuiles, réserver on fait un certain nombre d'expositions pour montrer que les royaumes barbares qui ont succédé à l'Empire romain avaient des formes d'art, de bijoux, qui n'étaient pas négligeables. Mais ce que montre Ward Perkins, c'est qu'en réalité, le peu d'art qui reste dans ces 6e, 7e, 8e siècles est réservé à une petite élite, alors qu'il était 2 siècles ou 3 siècles avant, il n'était pas un privilège, il était très largement diffusé dans la population. Si vous voulez, songeons que à Pompéi, on admire une fresque qui représente un boulanger et sa femme tenant un livre. Ça en dit long, ça veut dire que dans une petite ville, alors on est en Italie, c'est une ville prospère, mais donc dans une petite ville, malgré tout, comme Pompéi, un boulanger avait les moyens de se faire peindre à fresque, et il tenait un livre à la main parce qu'il se faisait peindre comme un lettré. Bien, au 7e siècle, cette classe d'hommes a disparu.
Merci beaucoup, Michel de Gégère. Donc, Les derniers jours, la fin de l'Empire romain d'Occident, paru aux belles lettres dans un premier temps, et dans la collection Tempus des éditions Perrin. On a cité également La chute de Rome, fin d'une civilisation, de Brian Ward Perkins, chez Alma. Et enfin, alors il n'a pas été traduit, les livres de Peter Heaser n'ont pas
été traduits. Si, il vient d'être traduit chez Alma. Oui. Alors, je n'ai plus le titre en tête, puisque ça s'appelait La fin de l'Empire romain. Peut-être c'est sous ce titre que ça a été traduit. Le livre de Peter Heaser, donc historien britannique, qui est absolument remarquable et qui est vraiment, à mon avis, un très très grand livre sur la période, comme tous les livres de Peter Heaser d'ailleurs, qui a écrit au moins 3 livres sur cette période.
Merci encore, Michel de Gégère, et à très bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle émission de nos cours d'histoire. À très bientôt.